RBS 91.9. Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com.
Bonsoir et bienvenue ici à la Méno.
Planète Racine.
Planète Racine. Planète Racine. L'émission 100% Racine.
Il est 21h06 au Stade de la Méno et partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing, la seule et unique émission 100% Racing Club de Strasbourg. Nous sommes en direct, comme tous les mardis, 21h, 22h, pour parler de quoi ? Bien sûr, du Racing Club de Strasbourg. Il n'y a pas de match en ce moment puisque c'est la trêve internationale, mais l'actualité du Racing ne s'arrête pas, hein, on le sait très bien. C'est toute l'année pour le Racing Club de Strasbourg. Après la belle victoire, hein, on en a parlé la semaine dernière face à Nantes, elle faisait du bien et ça a permis de... d'être plutôt serein, effectivement, pour cette trêve internationale, et tant mieux pour les Bleus. Avant la réception, on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi de Rennes, ce week-end, à la Méno, 17h, pour un gros match encore. Rennes, l'équipe en forme, hein, de ce début d'année 2024, et le retour notamment de Julien Stéphan, voilà, ça promet. On vous invite effectivement, bien sûr, à nous suivre ce soir. On est très heureux avec Alex, ça va ?
Ça va, mais t'as fait une petite erreur là dans ton intro.
C'est vrai ?
C'est pas 17h le match, c'est 17h05.
Ouais, ok, d'accord.
J'ai jamais compris pourquoi.
T'as de la chance d'être le seul chroniqueur, sinon tu sortais directement là.
On fout, j'ai un verre d'eau.
Ah ouais. C'est quoi ton t-shirt là d'ailleurs ce soir ?
C'est Retour vers le Bretzel.
Ok.
C'est une petite boutique à Strasbourg qui s'appelle Bretzel Airlines.
Ça n'a rien à voir avec Retour vers le futur en fait.
Ouais, c'est le même symbole, sauf qu'à la place de futur, c'est Bretzel.
Ah bah voilà. On est très heureux ce soir parce qu'il revient. Et il revient pas tout seul en plus, c'est ça qui nous fait plaisir. Et oui, parce que ce soir on a décidé de dédier cette émission à une section, comme on a dit un petit peu en émission en off tout à l'heure, qui a vu le jour au début des années 2000, et on salue effectivement et on dédicace aussi cette émission à Ernie et à Dani qui nous écoutent sûrement, voilà, qui étaient à l'œuvre il y a 10-12 d'années. Ils étaient quelques pitchounettes toutes petites comme ça, à être venus un samedi matin faire découvrir le foot féminin au Racing Club de Strasbourg, au centre de formation. Et l'histoire, elle est presque extraordinaire et elle est en train de prendre un tournant encore plus extraordinaire puisque notre équipe féminine grandit année après année, saison après saison, au point maintenant d'être presque en tête et à quelques points maintenant de la montée en Division 1 et ce serait exceptionnel. Il était venu en joueur, il était venu en jeune retraité, on sait plus trop, mais voilà, il était déjà venu plusieurs fois, il connaît la boutique, en plus il habite presque à côté, c'est un voisin, je suis sûr qu'il a les clés du studio quand on n'est pas là. Vincent Noguera, comment ça va ?
Très bien, bonsoir.
Et ça fait longtemps que t'es pas venu quand même, hein ?
Quelques années, ouais.
Et 5 ans déjà ?
Déjà.
Tu te souviens de tes 3 dernières venues ?
Pas du tout. Ouais, je me souviens que j'étais venu, mais je sais plus dans quel contexte.
Écoute, je crois que la première.
Ça se passait bien pour nous, ça se passait moins bien.
Au Racing, souvent ça dépend des moments où tu viens, si tu viens mardi ou le suivant. Donc après, non, mais t'étais venu, je crois, tout de suite au début quand t'étais revenu des States.
Ouais, c'est ça.
Ton rêve américain, je me souviens très bien, tu nous avais parlé. T'étais un des premiers joueurs d'ailleurs à nous avoir raconté un petit peu comment ça se passait là-bas et tout.
Des beaux souvenirs.
Exactement. Et en fait, alors, ce qui est sympa, c'est que t'es pas venu tout seul. Et qu'aujourd'hui, pour ceux qui le savent pas, donc Vincent Noguera, vous l'avez connu, joueur au Racing Club de Strasbourg, hein, dans d'autres clubs aussi, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais surtout, en fait, maintenant, t'es l'entraîneur de l'équipe féminine du Racing Club de Strasbourg. Alors, on en parlera bien sûr aussi comment était venue cette vocation, et on voit que c'est en train de monter en flèche. Mais t'es pas venu tout seul. Alors, elle est toute timide, elle est toute jeune. Elle nous donnait son âge tout à l'heure. Ça m'a mis un coup, comme d'habitude. Chloé. Bonjour, comment ça va ?
Ça va très bien.
Ça va ? Enchanté, merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Alors, c'est son baptême du feu. Alors, normalement, pour mettre les gens à l'aise, Alex, hein, tu sais comment c'est chez nous. Normalement, on leur demande tout de suite de faire une chanson, mais ça le sait pas, voilà. Non, il n'y a pas de bizutage chez nous, t'inquiète pas. Ta première radio, du coup ?
Ouais, c'est ça.
Là, j'imagine juste tes copines et tes collègues qui sont derrière la radio qui sont en train de rigoler.
Ouais, ils m'ont charrié toute la journée déjà.
C'est vrai.
Je pense qu'ils nous écoutent.
Oh là là, là, ça promet demain, ça promet demain. Vincent, Chloé, on est vraiment très heureux parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire et on est heureux d'en parler parce que c'est vrai que le foot féminin, monte crescendo année après année. On le voit notamment avec l'équipe de France masculine d'un côté et maintenant féminine aussi maintenant depuis quelques années. Et ce Racing se grandit, se développe, etc. depuis maintenant quelques saisons. Un petit mot vraiment avant de bien sûr parler de vous. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui dans cette saison vraiment dingue? On va bien sûr en parler, classement et tout après.
Bah, on est content parce qu'on est premier maintenant. On est premier à cette journée de la fin, c'est bien. Ça sera mieux de l'être à la dernière journée, mais on est content. On a un bon groupe qui vit bien. Tout va bien pour l'instant. Voilà.
C'est, et surtout, en fait, elles ont des résultats mais vraiment fantastiques. Alors Vincent, tu n'es pas anodin de tout ça, forcément.
Bah, j'ai ma part comme tout le reste du staff et comme toutes les joueuses. Donc on a toutes... Enfin, on a tous notre petite pierre, on met toute notre petite pierre à l'édifice et puis on fait partie du paysage, mais ça, on le fait ensemble, quoi. Donc, voilà, je suis ravi du groupe. On a un groupe de grande qualité humaine d'abord, et voilà, c'est un régal pour moi d'entraîner ces joueuses. Donc, je suis ravi.
T'as de la chance, il y avait bisutage demain aussi pour toi au retour de. On va revenir un petit peu vos portraits tous les deux, vos carrières, vos parcours aussi. Alors, on va commencer. Les dames, forcément. Chloé, une petite présentation. Alors, nous, on a l'habitude de toujours un peu poser la question de comment tu as commencé dans le foot. Est-ce que c'était vraiment une passion? Est-ce que tu imaginais presque t'en faire ton quotidien vraiment à ce moment-là? D'où tu venais, tes codes précédents? Voilà, un petit peu pour te découvrir et connaître ton parcours.
Alors, moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 6-7 ans. Ça s'est fait par hasard, je jouais dans la cour de l'école, je jouais avec mes copains et on m'a dit bah viens faire un essai dans le club de ma ville. J'y ai été.
Quelle ville du coup?
Alors moi mes parents ils habitent à côté de Fontainebleau. Et mon club c'était un club de campagne, mon club d'enfance il s'appelait FC Interloin. Et donc j'y vais une fois et puis le coach m'a dit bah tu reviens jouer ce week-end et ça s'est fait comme ça. Voilà, j'ai commencé comme
c'était
ça.
C'était mixte à l'époque?
Mixte, ouais. J'ai commencé avec les garçons. Enfin, j'étais la seule fille, du coup, dans une équipe de garçons. Mais bon, c'était mes copains d'école, donc tout s'est bien passé. Et j'ai commencé comme ça et j'ai jamais arrêté.
Et t'as monté échelon après échelon. Comment, effectivement, et c'est une bonne remarque d'Alex, c'est vrai qu'on est maintenant à un monde un peu qui évolue. Hein. C'est vrai qu'avant, bah, les filles étaient mélangées avec les garçons. Maintenant, ça y est, on commence à avoir des sections féminines dès les plus jeunes âges. T'as presque vécu ces changements-là un petit peu aussi et finalement cette spécialisation et cette séparation entre les garçons et les filles.
Ouais, tout à fait. Bah, moi, quand j'ai commencé, on me disait « mais t'es une fille, tu peux pas jouer au foot ».
Ah, carrément ?
Ah, mais il y en a, oui, ils m'ont dit. Ça venait me voir après les matchs, ils me demandaient « mais t'es une fille, tu joues au foot ?» Un peu choquée. Mais oui, ça s'est beaucoup amélioré. Maintenant, il y a les équipes de filles. Moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas d'équipe de filles. En tout cas, pas vers chez mes parents, il n'y en avait pas. Maintenant, on a pas mal, on entend souvent que les filles jouent au foot, on en croise plein.
Comment à cet âge-là, t'arrives à t'imposer, en fait? Comme t'as dit, dans un groupe où il n'y a que des garçons, forcément, les garçons, ils vont dire « Ah tiens, elle va rentrer, elle va jouer », et puis finalement, sur le terrain, peut-être que tu voulais aussi leur montrer que t'avais plus de qualité qu'eux, non?
Bah, je pense que j'y pensais même pas que j'avais été qu'avec des garçons, vu que c'était mes copains d'école, j'avais déjà l'habitude de jouer avec eux. C'est des garçons que je connais depuis que je suis toute petite, depuis que je suis en maternelle. Mes parents connaissaient bien leurs parents et ça s'est fait super naturellement. Le coach aussi était super. Et il n'y a pas eu cette différence en fait. Les garçons et même le coach, ils ne faisaient pas la différence si j'étais une fille en fait.
Ils ont été bienveillants finalement
avec
toi.
Ouais, super.
Ouais, généralement, tu leur mets un ou deux petits points et c'est réglé.
Ouais, c'est ça. Exactement.
C'est vrai. J'aurais pas pensé, tu vois, vraiment. Ah ouais, d'accord.
Bah, quand ils voient que tu as leur niveau, ils te font la passe.
Ouais, non mais c'est en fait ça joue par ça quoi.
Ouais, c'est ça exactement.
Et c'est vraiment là-dessus. Comment t'as ensuite enchaîné finalement au fil des donc plutôt région parisienne les échelons, les clubs, etc. Comment on est détecté aussi à ce moment-là?
Du coup moi je faisais des tournois donc avec les garçons et tout et un jour il y a un coach qui vient me voir et qui me dit mais t'as déjà pensé à aller à Juvisy, à l'ancienne, c'était Juvisy, encore, dans le 91. C'était le club de filles le plus près de chez mes parents. T'as déjà pensé à y aller et tout. Vas-y et tout, je connais le coach là-bas et tout. Vas-y, va faire un entraînement. Moi, je voulais pas trop au début parce que, bon, un peu timide, je voulais pas sortir de ma zone de confort. Et puis finalement, j'y ai été et le coach, il m'a dit faut que tu viennes. Le coach du Juvisy, direct, il m'a pris dans l'équipe, faut que tu viennes. Et c'est comme ça que j'ai signé la saison d'après à Juvisy.
Quel âge là ?
J'avais 12 ans.
Mais là, il y a des gens qui ont un rôle important, c'est les parents.
Ouais. Alors, moi, j'ai eu la chance que mon père, il a été super parce qu'il m'a emmené. Il y avait comme 45 minutes de route. Donc, il m'emmenait pour faire les entraînements 3 fois par semaine et les matchs en plus le week-end. C'est une chance parce que ce n'est pas tous les parents qui sont disponibles pour faire ça. Et on a fait ça jusqu'à ce que je rentre en pôle, donc à 15-16 ans. Donc, on a fait les allers-retours pendant 3-4 ans. Ouais.
Vincent, je te vois hocher la tête. J'ai l'impression que cette histoire-là, je pense que tu peux la déployer à d'autres de tes joueuses, non ?
Oui,
un peu dans le... Ouais.
Oui, beaucoup de filles. Alors après, c'est toujours... C'est toujours marrant de voir les parcours, le parcours des filles.
Mmh.
Et bien sûr que chez nous, il y a plein de jeunes joueuses qui étaient avec les garçons. Mais voilà, sans parler de filles-garçons, on parlait de l'entourage et des parents, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et bon, j'étais en train de sourire par rapport à ce que faisait son papa pour pouvoir l'emmener à l'entraînement. C'est, bon, voilà, c'est fondamental et... c'est une chance, et elle a eu cette chance-là, donc voilà, c'est pas chez tout le monde pareil.
Moi, il y a un quelque chose qui m'a toujours plu, quand je vais aller voir des matchs et tout, et j'espère, et peut-être tu vas me dire aussi au niveau des parents, j'ai trouvé toujours effectivement cette bienveillance des parents pour leur fille, supérieure avec un garçon, et je trouvais ça beaucoup plus sympa, moins dur aussi parfois avec vous. Alors peut-être que j'ai pas tes parents, peut-être étaient difficiles avec toi pour et que tu prenais le compte rendu pendant les 45 minutes retour du match, je sais pas, mais je sais pas, je vous trouvais toujours un peu plus bienveillant et plus sympathique.
Ouais, moi c'était plus du genre à prendre le compte rendu pendant les 45 minutes de route.
Ah voilà, tu vois.
Je croisais les doigts pour pas y avoir de pour qu'il y ait pas de bouchon sur la route pour rentrer plus vite quoi. Mais non, en vrai, heureusement qu'il m'a fait ça, parce qu'au moins ça m'a forgé. Hein.
Mmh.
C'est assez dur d'arriver au niveau, et si t'es pas forgé avant, je pense que j'en serais pas là. Au niveau mental déjà, je pense que ouais, j'en serais pas là.
Vincent, toi qui connais bien ton groupe aussi, dans les histoires un peu comme ça de tes joueuses, il y en a d'autres qui ont des singularités comme ça, qui ont appris peut-être le foot aussi sur le tard ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a plein de parcours, parce qu'on voit aussi maintenant dans ton effectif qu'il y a des joueuses qui viennent de partout. Ça, on y reviendra tout à l'heure.
C'est ça.
Mais c'est assez je sais pas, hétérogène presque.
Ouais, c'est hétérogène. Chacun a son parcours. Il y en a qui ont fait du foot chez les filles dès le plus jeune âge, parce qu'il y a les sections qui se développent quand même. Beaucoup ont commencé chez les garçons également, mais ouais, des histoires comme ça, c'est sûr qu'il y en a plein. Donc on disait aussi, on avait des étrangères, on commence à avoir des américaines, on a une joueuse haïtienne, donc on imagine bien le contexte actuel à Haïti. Donc tout ça, c'est des filles en plus qui vivent pour le foot, qui n'ont pas les salaires des garçons. Donc en fait, ça, il y a une envie qui est décuplée en fait de réussir. Parce que si elles faisaient autre chose, peut-être qu'elles gagneraient mieux leur vie, peut-être quelque part. Donc il y a une envie qui est déterminante chez ces filles-là et qui inspire un profond respect, parce que quand on est joueur, on gagne très très bien sa vie. Quand on est joueuse, c'est pas encore le cas. Donc ça veut dire qu'il faut encore plus de détermination et d'envie pour concilier parfois des études à côté, etc. Quoi.
Donc, on le voit actuellement au tennis aussi, avec la WTA qui essaie de mettre les prize money pareil que les garçons. Et effectivement, il y a encore un grand, grand chemin à faire là-dessus. Vincent, on va revenir aussi sur ton parcours, on l'a dit, joueur du Racing Club de Strasbourg. Comment et à quel moment tu as eu cette opportunité, cette proposition comment tu es allé vers finalement le foot féminin tout simplement au Racing, parce que c'est peut-être pas vers ça que tu t'imaginais. Alors je t'avoue que j'ai pas refait le dernier podcast pour savoir ce que t'allais faire à la fin de ta carrière. Ça, je me souviens plus. Alex, c'est toi qui te souviens peut-être de
non,
tout.
Non, pas du tout. Ouais.
Bah, je comptais bien sur toi quand même, mais je sais plus ce que tu nous avais dit. Peut-être que tu voulais rester dans le foot, je sais plus. Mais...
Ouais, non, c'est la vocation d'entraîneur, je l'ai depuis très longtemps. Donc je jouais, je commençais ma carrière, que je savais que j'allais entraîner ensuite. Donc ça c'était acté. Et dès que j'ai terminé ma carrière, moi j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et dans cette démarche, j'ai sollicité François Keller pour éventuellement être au centre de formation. mais les places sont très chères et il n'y avait pas forcément de possibilités. Et puis quelques mois plus tard...
T'as dit là, j'ai une petite idée, quelque chose là.
Bah, quelques mois plus tard, parce qu'au moment où on s'est parlé, c'était pas encore fait. Et puis un an après, je crois, il m'a rappelé un an après. Hein, donc, les filles venaient de monter en D2. Et dans un but de structurer la section féminine et de les rapprocher du haut niveau, en fait, ils voulaient quelqu'un qui connaissait, qui est passé par ce circuit-là. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé chez les filles. C'était une opportunité qui était très bonne. Je continue à me former, à passer mes diplômes. Et puis malgré tout, pour une première expérience, on s'entraîne tous les jours. J'ai un staff au complet. On a entraînement quotidiennement. Donc franchement, pour un entraîneur, d'avoir ce type de conditions pour une première expérience, franchement, c'est top. Donc j'ai sauté sur l'occasion, tout simplement.
Ouais, j'imagine que c'est pas la même pression non plus. Positif, parce qu'à un moment donné, t'es en plein développement, mais t'as pas la pression d'une équipe qui va jouer le maintien ou quelque chose comme ça, et que là, t'es en pleine structuration encore. Comme tu l'as dit, t'as un staff, même les installations. Moi, je me souviens, à l'époque, certains terrains, c'était juste... Enfin, c'était catastrophique d'y jouer. Et maintenant, je vois, voilà, même au Jean-Nicolas Müller, ça commence à être bien aussi de voir des matchs là-bas. Peut-être un petit retour aussi sur l'histoire de la section féminine. Alors, comme j'ai dit, hein, moi, j'ai mes petits souvenirs des années, début d'année 2010 et 2012. Mais en 12 ans, l'histoire de l'équipe féminine du Racing, elle est extraordinaire, en fait.
Ouais, elle est extraordinaire. Il y a eu beaucoup de personnes avant. Moi, je suis arrivé, on était en D2, donc moi, je suis arrivé au bon moment. Moi, j'ai le bon rôle, hein. Tout ce qui a été fait avant.
Ouais, mais il faut y rester aussi en D2.
Oui, oui, mais toutes les personnes qui ont été là avant pour structurer le club et la section féminine, c'est exceptionnel. En 2012, on commençait les premières filles qui venaient à l'école de foot. En 2016, il y a eu la création de l'équipe senior. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un travail de structuration qui a été phénoménal de la part des personnes en place. Et puis après, depuis 2016, 4 ans pour monter après au plus haut échelon. Enfin, au plus haut échelon actuel où on est, D2. Et il y a une sacrée évolution. Après, il y a moins de divisions aussi chez les filles. Donc
peut-être nous en parler un petit peu, justement, comment ça s'organise aujourd'hui, les championnats.
Aujourd'hui, on a quand même deux championnats régionaux, je crois deux départementaux. Et puis, donc on monte assez vite quand même. Départemental, après c'est R2, R1, et puis après la R1, c'est déjà la D2.
Ouais.
Même si maintenant, il y a eu la création de la D3, mais... Avant, c'était ça, donc ça va quand même assez vite pour pouvoir avancer, mais il fallait malgré tout le faire. Et une fois qu'on y était, le club a voulu continuer à structurer, à continuer à avancer, quoi. Donc on est sur la bonne voie.
J'ai l'impression, et en vous suivant après année à année, hein, on le voit même là, et on pourra le partager pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on a tout, et bravo encore aux équipes de Racing Stubb, parce que vous avez maintenant les classements, les fiches des joueuses et tout sur Racing Stubb, et c'est aussi une évolution qui va avec, et c'est vraiment top aussi d'avoir ces informations-là. Mais c'est vrai que vous avez franchi palier après palier. Il n'y a pas eu de... Forcément, il y a parfois des moments difficiles, mais on a senti que vous étiez sur un plan de marche, en fait, tout le temps, régulier. Alors, est-ce que le plan de marche aujourd'hui du podium et de la première place était déjà là? Je ne sais pas, c'est toi qui vas nous le dire. Mais on sent que vous avez grandi structurellement, en fait, année après année.
Ouais, c'était l'objectif. C'est-à-dire que François Keller qui m'a fait venir m'a dit qu'on voulait prendre la même trajectoire que les garçons, c'est-à-dire que petit à petit de pouvoir remonter. Et, la première année, donc malheureusement il y a eu le Covid, donc on s'est arrêté après 6 journées. Première saison complète, on termine
6 journées.
6 journées, ouais. Au mois d'octobre, on a arrêté. Tous les championnats sont arrêtés au mois d'octobre.
Et puis ils n'ont jamais repris.
Ouais. Donc en fait, après 6 journées, ça avait été déclaré saison blanche. En D1, ils avaient terminé. Et puis après, je crois que chez les garçons, c'était peut-être jusqu'en national, ça avait joué. C'est tout. Hein.
Ouais, c'était compliqué. Ouais,
Donc l'année 2020-21, pour la première saison qu'on fait complète, on termine 5e en D2, ce qui est pas mal. La deuxième saison, on fait 2e égalité, 3e de égalité avec les 2e. Et puis cette année, en finale, c'est la 3e saison complète. Et non, c'était pas prévu qu'on soit là où on est. Le but du jeu, c'était de pouvoir figurer parmi les premières places, en sachant qu'il y a eu une poule plus difficile, parce qu'il y a eu une refonte des championnats et que c'est une poule unique là où il y en avait deux avant. Donc c'était une saison découverte un peu. Et puis ça a bien pris, le groupe a bien pris, ça s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à la tête. Et puis finalement, monter est devenu un objectif, mais il l'est devenu, il l'a jamais été en fait. Donc maintenant qu'on y est à cette journée de la fin, on, on la joue cette montée. Mais début de saison, c'était absolument pas le plan, ou en tout cas pas officiellement de la part du club. Donc ils m'ont jamais mis de pression par rapport à ça. Donc pour travailler aussi.
C'est des bonnes conditions.
Pour se développer, c'est top.
Alors on n'en parle pas, mais il y a un truc qui est quand même appréciable au club, et ça concerne la réserve, ça concerne l'équipe de filles, ça concerne plein d'autres équipes du club, c'est que c'est des anciens pros qui sont là pour aider les équipes. Alors les résultats sont un peu moins bons pour la réserve actuellement, mais on a quand même un Lacour qui est en place, qui a beaucoup d'expérience, un Auton qui a connu la première division. On a Vincent,
que des noms des joueurs de club.
Même François, lui, qui a fait pas mal de matchs pro, c'est quand même un très bon encadrement pour n'importe quel joueur qui se retrouverait au
centre. Et puis tout le monde sait ce que c'est le Racing, en fait, là-dessus.
Ouais, ça représente parfaitement. Ça, c'est vraiment un résumé du Racing, en fait. C'est que c'est malgré tout une grande famille, et on aime avoir les anciens joueurs. Voilà, c'est aussi un désir de la part du club, parce qu'ils connaissent l'identité, et puis l'humilité, que quand on connaît l'histoire récente et les 15 dernières années, on est obligé de faire preuve de beaucoup d'humilité, et cette histoire, on la connaît. Et forcément, pour le club, c'est très fort, cette identité-là. Donc c'est sûr que d'avoir des personnes qui ont connu ça, c'est un plus.
Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, quand on avait fait le reportage sur le centre de formation, quand on rentrait dans le centre, il y avait des photos des joueurs du centre qui étaient passés pro. Je ne sais pas si c'est encore le cas.
Toujours
dans le hall, ouais.
Donc rien que ça, je trouve ça une très bonne chose.
Et à contrario, le centre, quand il a été construit, pour tout sauf du foot féminin. Et c'est le cas encore aujourd'hui, et on espère que les travaux commenceront bientôt, c'est qu'il y avait un vestiaire commun et surtout des douches communes pour tous les vestiaires. Donc à un moment donné, faire mixer toutes les équipes ensemble, entre les jeunes, les enfants, les féminines, machin, etc., c'est un peu compliqué, et respect pour François qui a dû sûrement trouver beaucoup de solutions et réfléchir à toutes les solutions, à faire des roulements, etc. etc. Chloé, tu as parlé un petit peu de tes débuts de ta carrière. On va continuer ton fil de ta carrière, parce que je sais que tu es aussi international. On a un peu soufflé ça avant là-dessus. Peut-être nous dire un peu comment ça marchait. Et puis nous dire aussi comment Vincent a réussi à vous attirer à Strasbourg. Parce que qu'est-ce qui a fait que tu es venu à Strasbourg et que tu n'es pas parti ailleurs,
hein? L'année dernière, enfin en fin de saison de l'année dernière, moi du coup j'étais au Paris FC avant.
C'est le même club, non ? Juvisy a été renommé ?
Ouais, Juvisy a été renommé Paris FC, c'est le même club.
Donc t'as fait toute ta carrière à ce moment-là, enfin.
Ouais, c'est le même club, ça a juste changé de nom en fait. Et du coup l'année dernière, moi je voulais partir du Paris FC. J'ai échangé avec Vincent, on s'est eu au téléphone, voilà. J'ai aussi échangé avec des filles que je connaissais déjà, qui étaient déjà au Racing. On m'a dit que du bien. Moi, je cherchais une équipe pour me mettre en confiance aussi et pour me lancer. J'avais besoin de trouver une équipe où je pouvais avoir du temps de jeu, où je pouvais prendre confiance en moi pour pouvoir progresser. Et on m'a dit que du bien de cette équipe. Je connaissais pas la D2 encore, parce qu'au PFC, ça joue en D1. Et voilà, j'ai signé à Strasbourg et je suis contente en tout cas.
Il y a quand même des grands noms qui sont passés au Paris FC. Je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant, mais des Marinette Pichon, des Gaëtan Tinet, des Sarah Boisdi un peu plus récemment.
Gaëtan qui est toujours.
Et Vincent, comment toi tu fais ? Parce que autant maintenant, et on pense à Guillaume notamment, notre chroniqueur aussi, chez les masculins, tu as de la data dans tous les sens, tu as des sites partout, des machins, tu peux tout suivre, le joueur t'appuie sur son nom, il y a une file ticket de caisse qui sort, tu sais tout le machin, le moindre passe machin qui sort. Là, avec les féminines, il y a un vrai décalage. Alors comment tu vas chercher Chloé au PFC et comment tu fais finalement ton recrutement aussi aujourd'hui ?
Bon, alors malgré tout, il y a de plus en plus quand même de vidéos en D1, D2. La plupart des matchs, on peut avoir quand même facile. Tous les clubs maintenant qui sont structurés filment leurs matchs, donc c'est assez facile d'avoir.
Ouais, c'est
vidéo.
Devenu plus facile au fil des années. Ouais.
Et en plus de ça, sur la scène internationale, on a les vidéos sur une plateforme qu'a le club, et j'ai accès à cette plateforme également pour le recrutement. Et il y a tous les matchs internationaux des jeunes
d'accord,
équipes.
D'accord. Ok.
Donc forcément, ça aide aussi.
De VOD de matchs.
Ouais, c'est une plateforme.
Allez,
il y a tous les matchs de tous les.
France-Allemagne, U15.
Il y a les matchs partout dans le monde chez les masculins et chez les filles. Tous les matchs qui sont filmés sont sur cette plateforme-là. Donc, les matchs internationaux, on peut les avoir assez facilement. Chloé, c'était un peu plus délicat en D1 parce que le niveau du PFC est excellent et Chloé était encore jeune, donc avait moins de temps de jeu. Donc on a pu voir quand même des vidéos par rapport au match qu'elle a fait en équipe de France.
Et ça marche comme chez les garçons, avec des contrats, avec des durées maintenant aussi ? C'est exactement la même chose ?
La particularité chez les filles, c'est que nous, là, on est vraiment sur un système hybride où on a de tout. On a de tout. On a des filles sous contrat, on avait des filles qui travaillent un petit peu à côté, on a des filles qui font des études. Il y a vraiment tout, même si là, il y a une tendance où ça va se... Il va y avoir de plus en plus de contrats. La fédération impose un nombre de contrats minimum, des contrats fédéraux. Donc tout ça va dans le sens des joueuses. Toute proportion gardée toujours hein, par rapport au gap qu'il peut y avoir avec les plus grands clubs français et avec les garçons, bien évidemment. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je disais juste avant qu'il y a beaucoup de mérite chez elles, parce que il y en a certaines qui doivent travailler un peu à côté.
J'avais une interview de Morgane qui travaillait, voilà, je crois, encore à Auchan ou un truc comme ça à côté. Ouais.
Donc après, ce type de profil. Mais il y a de plus en plus, malgré tout, de contrats, et le club aussi nous donne les moyens d'avancer. Mmh. On disait que juste avant, le club se développait, mais c'est parce que le club nous donne les moyens aussi d'avancer. Et le club nous a donné les moyens de pouvoir recruter des filles, d'avoir de plus en plus de contrats. Donc il y a vraiment eu un investissement de la part du club qui nous pousse vers l'avant.
Ce qui est assez rigolo, c'est que finalement le sentiment qu'on en a, nous, de l'extérieur, c'est qu'il y a encore, allez, même pas un peu moins de 10 ans, le zoom de recrutement, il était allé pratiquement sur l'Eurométropole, et puis un peu sur le Bas-Rhin, et puis un peu sur la région, et puis un peu sur le Grand Est. Et que maintenant, en fait, finalement, vous faites du recrutement en France entière, voire même à l'international. Enfin, comment demain tu vas chercher une joueuse qui vient des États-Unis ? Enfin,
Après, c'est des vidéos. Hein. Quoi qu'il arrive, on a au moins les vidéos, on a des essais si besoin.
Mais il faut aller la chercher, la joueuse qui vient des États-Unis quand même. À quel moment tu fais ça? Toi, t'étais aux États-Unis,
ça commence à prendre la même direction que les garçons, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des agents maintenant, donc les agents vous appellent, le GTL vous a proposé. Voilà, c'est.
Ça commence aussi, ouais.
Ça commence, et en tant que. J'ai la casquette d'entraîneur, mais il y a aussi le recrutement, donc j'ai été en contact aussi avec les agents. Donc voilà, en fait, les agents nous proposent les joueuses et puis on va observer et voilà comment ça peut se passer.
J'ai l'impression, tu sais, c'est un peu comme quand nous on jouait à Football Manager, tu sais, quand tu commençais petit, tu vois, et puis après à chaque fois tu avais des moyens supplémentaires et ça commençait et c'est là où c'est super intéressant parce que là j'imagine bien maintenant, comme Chloé tu l'as dit avant, tu vas chercher des profils en fait vraiment pour ton effectif qui te manque là-dessus. On parlera bien sûr des effectifs et puis tu nous auras quelques anecdotes sur tes copines aussi qui chambrent le plus, qui chantent le plus faux. Enfin là, ça, on verra ça tout à l'heure. Mais...
j'ai hâte de savoir moi-même. Moi-même, j'ai hâte de savoir.
mais voilà, c'est vrai que maintenant tu es vraiment dans une strate vraiment au-dessus où là vraiment tu essaies de créer un groupe homogène en créant des profils. Alors que finalement, à l'époque, c'était presque un appel disant allez, venez, on. Les filles sont dispo, quoi.
C'est ça, ouais, c'était régional avant, des filles, beaucoup de filles qui travaillaient, voilà, et petit à petit, comme je disais, le club qui met des moyens supplémentaires, qui permet de recruter des filles sous contrat, donc on peut les recruter plus loin parce qu'elles peuvent venir, elles peuvent éventuellement, selon les cas, selon le niveau de vie qu'elles veulent avoir, vivre complètement, après c'est personnel à chaque personne, mais c'est sûr...
C'est presque du cas par cas, en fait, ouais.
C'est du cas par cas, ça dépend de la fille, c'est sûr que c'est pas le luxe des garçons, et après ça dépend niveau de vie qu'elles veulent avoir, si elles font des études à côté, s'il y a les parents qui suivent, si jamais elles font des études. Donc tout ça contribue, et à la fois on sait que quand les agents les proposent les joueuses, on sait ce qui est possible ou pas par rapport aux filles. Donc voilà, c'est un univers. On est en phase de mutation, on est en pleine phase de mutation, dans le bon sens, tant mieux. Et ça contribue à la structuration.
Bon, Chloé, il n'écoute pas Vincent, mais qu'est-ce qui a fait que finalement tu as choisi Strasbourg ? C'est quoi ? C'est la cathédrale ? C'est la gastronomie ? T'as pas le droit de dire le discours de Vincent parce que sinon, voilà, ça c'est. Non, il est à côté de toi, ça marche pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré particulièrement ? Est-ce que tu connaissais Strasbourg avant de venir à Strasbourg ?
Je connaissais pas du tout. J'étais jamais venue à Strasbourg.
Ah, vraiment ?
Ouais, j'étais jamais venue à Strasbourg.
Et la première fois que t'es venue, t'as signé pratiquement alors ?
La première fois que je suis venue, c'est quand j'ai commencé au mois d'août. Parce que, voilà.
D'accord.
Je suis même pas venue pour signer, j'ai signé à distance vu que j'étais à l'Euro. Et non, qu'est-ce qui a fait que je suis venue? Non, ça m'a fait bonne impression quand j'ai eu Vincent au téléphone.
C'est le projet, en fait, finalement. Ouais.
Le projet, mon agent aussi m'a dit que du bien de Strasbourg. Les filles qui étaient déjà dans l'équipe l'année dernière, j'ai beaucoup parlé avec elles, surtout avec Pauline Ogou, qui était à l'Euro avec moi. Donc non, franchement, je cherchais un club familial où je pouvais prendre confiance et je pense qu'il n'y avait pas meilleure équipe pour moi. Cette saison.
Il n'y a pas meilleure équipe, t'inquiète pas. Ouais, n'ai pas de doute là-dessus. Parce que, alors je sais pas, est-ce que le côté, alors je sais pas, c'est une question peut-être un peu piège, mais est-ce que le côté, l'image du côté masculin influence finalement sur ces décisions-là, sur ce qui peut se passer, ce que t'entends, ce que tu vois parfois dans certains clubs pro masculins, parfois qui, pas l'image, elle est pas forcément peut-être aussi sympa qu'à Strasbourg et l'histoire, comme tu as dit Vincent, proche de maintenant récente du Racing qui a fait qu'on s'est développé, etc. Même les matchs à la Méno, etc. Forcément, ça joue tout ça.
Ouais, bah moi après, j'ai pas trop pris en compte le côté masculin parce que généralement dans les clubs, ben, le côté masculin et féminin c'est quand même assez séparé. Non, j'ai pas pris en compte le côté masculin. Je me suis basée que, comme je vous ai dit, sur les dires des filles que je connaissais, sur la conversation que j'ai eue avec Vincent. J'ai aussi regardé quelques matchs, les résultats. Voilà.
Ouais, c'est intéressant quand même de voir un peu comment, quels sont les curseurs finalement. Ouais. Puis il y a un truc que tu as dit, c'est que tu es international, il y avait de l'euro, etc. Ouais, raconte-nous un petit peu tout ça là, parce que ça, les gens commencent à le voir aussi. Tu parlais de la télé avant Vincent, mais on commence à voir tout ça aussi à la télé.
Ouais, bah en équipe de France, c'est vrai que c'est assez regardé. Pas l'euro cette année, mais il y a deux ans que j'ai fait en 19, c'est passé sur l'équipe 21. Donc c'était assez facile pour les gens de pouvoir regarder nos matchs. Donc cet été, c'était retranscrit quand même sur FFF TV, il me semble. C'était en Belgique. On a perdu en demi-finale de l'Euro, mais sur tout ce qui est réseaux sociaux, on pouvait nous suivre. La FFF postait des photos, nos résultats, donc sur le même compte que les garçons, voilà, sur le compte de la fédération. Donc non, c'était quand même assez visible, la compétition.
C'est marrant, elle en parle comme si c'était normal, mais c'est quand même une demi-finale.
Non, nous, c'est le Graal, tu vois. J'arrête tout après, derrière, fini, je range les crampons. Et donc, non, bah, je t'ai le rôle l'année dernière.
Nous, on est bénévole au match d'ouverture.
On est ramasseurs de balles, tu vois. Parce que, attends, je sais pas, tu te souviens ce qu'elle a dit avant l'émission, où elle allait peut-être au Mondial l'année prochaine là. Tu te souviens où c'est? Je me souviens plus trop, dans le sud, quelque part, sud-ouest de Strasbourg, là. Après l'océan, non? Ouais, c'est Colombie, non? C'est ça. Non, mais c'est quand même des.
On lui souhaite, en tout cas.
Ah, bah oui, tout à fait. On te souhaite vraiment que tu seras effectivement avec cette équipe de France. T'as fait les échelons, du coup, en équipe de France?
Ouais, tout à fait. J'ai commencé donc en U16 parce qu'avant c'était U16, maintenant il y a équipe de France U15. J'ai fait U16, U17, il y a eu le Covid, donc j'ai fait le début, après on a été confinés. Ensuite, ça passe en U19. J'ai fait du coup deux ans de U19. Donc...
Et on salue Sandrine Aiglière, notamment, qui œuvre que ce soit ici en Alsace, mais aussi avec l'équipe nationale.
Ouais. Bah, c'était ma coach pour les deux euros que j'ai fait en U19, du coup. Et cette année, je suis en U20, équipe de France U20.
Et là, du coup, c'est pour toi, Vincent, c'est aussi un œil averti sur les joueuses qui composent ces équipes-là. Forcément, il y a des très bonnes joueuses aussi, peut-être en vue de recrutement un petit peu, de regarder un peu suivre ces matchs-là ou même les performances de tes joueuses.
Ouais, bon, ça c'est la facilité d'aller entre guillemets chercher en équipe de France. Et pour être honnête, on pourra pas être les premiers à se servir. Hein. Donc voilà, les grands clubs alimentent la plupart du temps les équipes nationales, donc on n'est pas les premiers à pouvoir entre guillemets se servir, mais nous on est très contents à chaque fois qu'une fille peut représenter ses couleurs, que ça soit avec l'équipe de France ou les autres équipes, parce qu'on a eu internationale haïtienne, voilà, on a Maroc avec Kenza Chapelle, on a Pilar Khoury aussi, donc On est très heureux parce que c'est une fierté pour toutes ces filles-là de représenter leur pays. Et si ça peut aussi mettre en avant notre section et nos joueuses qui sont sur la scène internationale, nous, on est, on est très
content. Et le club le fait très bien parce qu'il poste aussi, quand il y a des internationaux avec les masculins, il poste aussi vos joueuses internationales qui sont sélectionnées comme là sur des trêves ou à venir. Et ça, c'est vraiment très bien aussi parce que ça permet de mettre en perspective aussi tout ça. Un petit mot sur cette saison quand même, parce que je regarde le classement, mais...
Petite saison, hein, franchement.
Ouais, bah oui, avec 12 équipes, à un moment donné, petite saison, mais bon, quand t'as 34 points après 15 matchs, c'est que ça commence à être pas mal quand même tout ça, là. C'est
impressionnant. Un nombre de défaites impressionnant. Une.
Eh ben, j'espère qu'on leur porte pas la poisse, Alex, parce que sinon, je peux te dire qu'on est interdit de méno à la fin, tu vois. Une saison pleine, avec des matchs solides, des matchs même en déplacement encore, on a vu même des matchs où parfois il ne faut pas perdre et vous arrivez à accrocher des matchs nuls. Vous faites le job comme ce week-end 4-0, je vois Vincent qui hoche la tête, on sent l'entraîneur satisfait de son groupe et c'est carré.
Ouais, bah, je peux être content, bah, ça c'est sûr, mais je leur dis assez souvent qu'elle travaille très dur. Donc elle mérite ce qui se passe.
C'est une juste récompense en fait.
Ouais, c'est une récompense. Elle travaille dur, tout le monde travaille dur, dans le staff on travaille dur. Elle travaille aussi, je parlais avant, il y en a qui bossent à côté. Donc elles font les voyages le week-end, voilà, elles rentrent à pas d'heure le lundi matin, elles doivent aller en cours certaines. Voilà, ce qu'elles font c'est extraordinaire et je suis vraiment très, très content du travail qu'elles fournissent. Maintenant, il faut terminer le job. Hein. Donc, malheureusement, pour l'instant, on n'a rien fait. Mmh. Et la route est encore assez longue. Je leur disais encore ce matin qu'on vient juste de passer les deux tiers. Enfin, donc, il reste un tiers du championnat.
C'est là le rôle du coach de relativiser un petit peu tout.
Il reste un tiers. Ouais. C'est considérable.
Donc, peut-être nous juste nous dire 12 équipes. Comment ça marche si vraiment vous jouez à la montée? Comment ça fonctionne? C'est l'accession directe, la première place, deuxième place?
Deux équipes qui descendent en D3, deux équipes qui montent en
directement
D1,
sans barrage.
Sans barrage en D1. Mmh.
Donc là, voilà. Alors, ce qui m'a fait plaisir, et ça m'a rappelé ma jeunesse, oui, désolé Chloé, je suis assez un ancien, ça m'a rappelé des souvenirs, tu vois, presque les Panini des années 90. Parce que vous avez des grandes équipes, on va y arriver dans le haut du classement, mais tu vas jouer contre Albi Marsac, tu vas jouer contre Thonon Evian. Le Mans, Montauban, enfin là Montauban, c'est plus le foot, ça parle pas trop quoi. Hein. Et là, les déplacements le week-end, ça doit piquer un peu quand même. Hein.
Ouais. Ben après,
mais
aujourd'hui, la seule restriction qu'on a, c'est qu'on n'a pas de d'avion privé quoi.
Ouais.
Mais sinon, le club nous met dans les meilleures dispositions.
Mmh. Mmh. Montauban, vous y allez en bus?
On y va en avion.
Ah,
d'accord.
On y va en avion, on a atterri à Toulouse.
D'accord.
Et après, on a 45 minutes dans un vol commercial, quoi.
Ouais, ouais, régulier.
On voyage, on voyage en d'excellentes conditions. Ça fait.
Non, mais c'est bien, ça salue aussi. Hein, ça fait...
Oui, mais ça fait partie de ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec l'évolution.
La structuration.
De la structuration, les moyens qui sont mis encore plus cette année avec l'arrivée des nouveaux investisseurs et Blueco. Donc, ça fait partie des moyens aussi. Mmh. Ok, on a des filles qu'on peut avoir, qu'on peut recruter. Mais il y a des conditions de voyage qui sont...
Ah, si tu prends 15 heures de bus pour revenir,
y en a qui le font dans notre pool. Oh,
ça pique.
Donc, oui, ça pique, mais nous, on voyage du mieux possible. Alors, ça ne veut pas dire que tous les voyages sont reposants, ça ne veut pas dire ça. On a du train qui est parfois assez long. Mais malgré tout, on fait au plus vite, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour que le voyage se passe du mieux possible. Et s'il faut voyager même sur 3 jours, prendre une deuxième nuit d'hôtel, le club le fait. Donc on est vraiment, on est dans les meilleures conditions possibles si on enlève juste l'avion privé, quoi. C'est tout. Donc on est dans d'excellentes conditions et le club vraiment fait le nécessaire.
Ouais, je pense que Chloé hoche la tête, mais j'imagine bien que pour des joueuses aussi, c'est important, comme tu as dit, avec ceux qui ont cours, qui travaillent le lendemain, d'avoir des conditions comme ça. Parce que c'est vrai qu'on en a déjà vu, hein, des voyages, effectivement, et ça, faut le récupérer derrière, ça pique un peu. Et je pense que c'est bien pour vous. Après, ça vous fait des bons moments aussi dans l'équipe.
Oui, bah, c'est sûr que si on part à Montauban et qu'on y va en bus, pour enchaîner le match derrière, c'est compliqué, alors qu'en avion, c'est 1h, 1h15.
Mm-hmm.
C'est pas négligeable.
Sur la saison un petit peu, alors vous êtes à la lutte avec Nantes, Marseille et Nice qui est un petit peu décroché là-dessus. Comment se placent ces équipes-là qu'on connaît forcément avec la Ligue 1, mais dans le foot masculin, mais dans le foot féminin, comment ça se place un petit peu aujourd'hui?
Bah, y a de plus en plus d'équipes professionnelles de toute façon qui sont en D1, D2, tout simplement parce que ça demande des moyens. On disait, il y a la FFF maintenant qui impose quand même un nombre de contrats minimum. Et puis voilà, si on veut performer, c'est des conditions de déplacement, c'est des conditions d'entraînement, c'est un staff. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. C'est pour ça qu'on voit un peu plus les clubs professionnels qui sont en D1, D2. Mmh. Et voilà, ça se profile dans là-dedans. En D3, je crois qu'il y a Toulouse qui est première, qui risque de monter. Voilà, donc forcément, c'est des moyens pour les sections féminines et il faut avoir forcément les reins solides. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de clubs de professionnels garçons.
Alors pour suivre de loin tout ce qui est féminin, tout ce qui est foot féminin, j'ai l'impression que les championnats, en tout cas D1 et D2, en bas, je sais, en dessous, je sais pas, qu'il y a un très gros écart entre le haut de tableau et le bas. On va prendre par exemple la D1 où
ça a tendance à se réduire maintenant.
En D1,
mais
c'est le cas, en D2 moins.
Ouais, en D2 moins.
Mmh. En D2 moins, parce que bon, voilà, s'il y a des top joueuses de toute façon en D2, c'est que si elles arrivent à maturité et qu'elles sont top joueuses, elles vont aller en D1. Mmh. En D2, c'est beaucoup plus
homogène.
Franchement, en D1, il y a voilà, un ou deux clubs qui sont vraiment au-dessus, t'en as un ou deux qui suivent, et après, il y a un peu le reste. En D2, c'est quand même très homogène. Si on regarde la suite du championnat, je crois qu'il y a 6-7 équipes en 4 points. Quoi. Donc, c'est
voilà. Oh,
il y a juste une
équipe
qui est décrochée. Ouais, pour le maintien, ouais, il y a des équipes qui sont... À part une équipe qui est décrochée...
C'est Metz, c'est ça?
Non, c'est Montauban qui est la victime de ce week-end, là, qui est un petit peu décroché. Je regardais un peu les âges dans le groupe aussi, c'est un groupe assez jeune là-dessus. Alors, Chloé, écoute pas, mais comment t'arrives à tenir tout ce groupe-là concerné?
Parce que.
Quand même pas.
Je suis pas si vieux quand même.
Non, mais si t'avais été précoce.
Je suis pas si vieux.
Comment tu fais pour effectivement les motiver aussi? Comme tu as dit, il y a des profils très différents, il y a des âges parfois aussi très différents et des ambitions forcément aussi différentes.
Exactement, mais bon, alors, des ambitions, non, je pense qu'aujourd'hui elles veulent toutes aller là-haut. Mm-hmm. Là où il y a peut-être 2-3 ans, on était dans du foot un peu, certaines qui veulent aller en haut, d'autres c'est amateur, c'est pour se faire
mix loisir compétition, on va dire ça comme ça.
Là, on a quand même pris un vrai virage, ouais. où toutes veulent aller là-haut, donc elles savent ce qu'elles veulent et c'est vraiment, il y a une grande qualité de travail avec les filles. Et l'avantage du fait qu'elles soient jeunes, c'est qu'on peut aussi les former comme on a envie. Donc si je recrute une fille qui a 30 ans, elle aura sa carrière derrière elle, elle aura les automatismes derrière elle, alors que si elles sont jeunes, on peut vraiment les emmener là où on a envie sur le plan technico-tactique. Mmh. Et du coup, bah, pour former, pour un entraîneur comme moi, c'est du bonheur, quoi.
Alors un petit mot sur les joueuses, alors on va pas passer en revue tout votre effectif, mais peut-être un petit mot conjoint. Qui est capitaine dans votre équipe?
C'est Amanda Chanet.
Voilà.
Qui est capitaine.
Vincent, pourquoi Amanda capitaine?
En fait, Amanda, pourquoi capitaine? Parce que moi, le capitanat, il faut surtout, avant tout, que ça soit quelque chose qui ne dérange pas la fille. Mm-hmm. Soit pas trop lourd. Et à la fois qu'il soit, voilà, qu'il puisse avoir une maîtrise des émotions. Et puis voilà, Amanda est assez calme. Et puis, je pense que le brassard glisse un peu sur elle. Et bon, voilà, je voulais pas mettre le brassard à quelqu'un qui allait prendre ce rôle peut-être trop au sérieux ou dans un sens qui allait se flageller. Donc, voilà, voilà pourquoi c'était un mandat. Alors que c'est loin d'être la plus âgée, mais voilà.
Petit mot sur un poste qui a énormément évolué les dernières années et on voit les performances de la joueuse. Un mot sur votre gardienne? Peut-être Manon, les performances aussi. Hein. Alex, je crois que tu me disais quoi dans la défense?
Non, moi je disais que...
Ils ont pris que 9 buts. Hein.
Oui, que 9 buts.
Donc Manon en fait grand pas. C'est...
Moi je disais que le problème des gardiens, je le disais avant l'émission, ouais, entre nous, c'est le problème des gardiennes, ça reste néanmoins la taille. Mmh. Elle se retrouve dans un but qui fait la même hauteur que pour les hommes, sachant que les gardiens actuels chez les hommes font quasiment tous 1m90.
C'est ce que je veux dire, ouais.
C'est rare quand même, à part Wendy Renard de... Ouais. De taper aussi haut chez une femme. Donc forcément, on se retrouve avec des actions qui, on se dit, chez un homme, ce serait facilement arrêté. Chez une femme, c'est forcément beaucoup plus compliqué.
Par contre, au jeu au pied, dans le positionnement de sa défense, ça, je ne sais pas comment tu l'as senti les années, mais on voit qu'elles ont pris de l'assurance aussi au niveau à ce poste-là. Et après, on voit aussi des beaux arrêts, des arrêts réflexes, enfin, voilà, ça, même des prises de balles aériennes. Enfin, voilà, ça a beaucoup évolué aussi.
Ouais, bah, ça continue, en fait. C'est comme le reste de l'évolution du football féminin, c'est en évolution. Donc la qualité de la formation a évolué, donc forcément.
Là, t'as un entraîneur des gardiens, par exemple.
Oui, oui, j'ai un entraîneur des gardiens qui est là à toutes les séances. Donc, voilà, des défis qui sont formés maintenant dès le plus jeune âge, c'était pas le cas avant. Donc, bah, ça porte ses fruits, c'est normal.
Mmh. Un petit mot, si je devais recruter quelqu'un devant, je prends qui marque des buts dans votre équipe, là que... Il y a Vincent qui réfléchit, là. Ouh là là, attends, c'est quoi?
Non, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de...
En fait, vous n'avez pas une qui marque tous les buts et les autres, en fait.
C'est
vous avez un... Ouais.
Voilà.
Parce que je regardais, c'est pourquoi je te pose la question, parce que je regardais les stats de la saison, et puis quand je vois les buts, bah, je me dis, mais en fait, le danger vient de partout, là.
Clairement. Mais je pense
bon, Chloé, j'ai pas vu beaucoup de buts par contre.
Non, moi je marque pas. Moi je marque pas, moi.
Vous avez vu la transition, c'était... Ouais, c'est ça. J'ai vu 4 cartons jaunes d'après les
heures. Je prends des cartons, mais je marque pas. J'ai pas de chance sur ça.
Et bah, tu verras ce week-end ou le week-end prochain, tu marqueras grâce
j'espère,
à
nous. J'espère, je croise les doigts.
Donc, du coup, ouais, qui sait. C'est vrai que ça vient de partout en fait. Enfin, il y a Kenza Chapelle qui en a marqué 9, Laurine Hanquin aussi, mais alors, je sais pas, c'est les stades de Racing, je trouve. Mais,
ouais, il y a la coupe.
Voilà.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça. Vous avez une équipe, et on le voit même dans les résumés, en fait. C'est jamais la même joueuse qui a marqué 3 ou 4 buts, ou même tous les week-ends, c'est une joueuse différente. Ça, pour le coach, ouais, il sourit parce que ça, c'est une vraie force d'avoir la rotation comme ça.
Moi, je pense que c'est parce qu'on joue les unes pour les autres dans l'équipe. Je sais que s'il y en a une devant et qui voit que sa partenaire est mieux placée, elle va lui faire la passe, même si elle peut frapper. Ouais. Si elle voit que la partenaire est mieux placée, elle va lui faire la passe et la partenaire pourra marquer. Et je pense même que des fois...
Un peu trop parfois, non?
Ouais, et des fois, il y a une joueuse qui peut être encore plus contente que sa copine marque que si elle-même avait marqué, en fait. Et je pense qu'on le voit sur nos vidéos, quand nos buts sont filmés, dès qu'il y a une copine qui marque, direct, tout le monde saute de joie, tout le monde va la féliciter et tout. Et il n'y a pas de course au but entre les attaquantes, il n'y a pas de course au passe-dé. S'il y en a une qui est mieux passée pour tirer, pour marquer, et ben on lui met le ballon. Et si elle marque, ben tout le monde est content, autant même que si nous-mêmes on avait marqué.
Là, on l'a vu sur les résumés même de ce week-end, il y a des buts qui se ressemblent un petit peu aussi, les débordements, la passe en retrait, enfin voilà, c'est des buts voilà, de costaud quand même, vraiment, et vraiment, ça joue vraiment sympathique. Allez, maintenant, on peut parler un peu off, on aime bien les anecdotes un petit peu, je sais pas, dis-nous quelques secrets du vestiaire, qui c'est qui chambre le plus, voilà, qui met l'ambiance, qui...
On va mettre le coach mal à l'aise.
Elle va pas dire, mais c'est elle.
Non, mais alors, par contre,
j'ai
mes sources aussi, j'essaie de... tu vois où je vais
arriver. Je vais aussi apprendre des choses, bah, parce que forcément, on a, en tant que garçon, on n'a pas accès au vestiaire comme je pourrais l'avoir avec des garçons.
Donc, t'as dû t'adapter aussi un petit peu,
du coup.
Ouais.
On est un peu banni, les garçons, du vestiaire. Parce que,
tu fais quand le dernier speech, du coup?
En causerie 2 heures avant. Réunion 2 heures avant, et après et après elles ont un temps pour se changer dans les vestiaires, et une fois que j'ai l'autorisation de rentrer, après je rentre librement, et elles le savent, elles sont au courant, quoi.
Ouais, c'est... Alors du coup, qui lance les cris quand vous gagnez, parce que vous avez crié beaucoup cette saison en plus?
Souvent c'est Laurine Hanquin qui chante, ouais, souvent. C'est quasiment tout le temps elle, je pense, sur l'année ça a été quasiment tout le temps elle. Après, y en a d'autres, hein, qui crient beaucoup.
C'est marrant parce que j'entends rigoler au niveau du centre de formation là-bas. Je l'entends jusqu'ici, tu vois.
Il y en a d'autres qui crient beaucoup, même si c'est pas elle qui mène le cri après les victoires. Elle se lâche quand même dans les douches, les trucs comme ça.
Faut dire des noms. Hein.
Ouais, je peux balancer, ouais. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Vincent m'a passé un petit papier en me disant, écoute, je suis jaloux, je sais pas ce qui se passe dans mon vestiaire, donnez-moi quelques infos, tu vois. Je sais pas, dans le bus, qui c'est qui met la musique dans le bus?
Il y en a plusieurs, hein. Franchement, ça change souvent. Kenza, parce que...
Vous écoutez quoi, du coup?
Eh ben, franchement, on écoute un peu de tout. Des fois, elles vont me mettre plus du rap, des fois, plus des chansons un peu commerciales, des fois même du zouk, de tout, en fait, de tout. Il n'y a pas de règle.
Je regarde Vincent qui dit, ouais, oh là là, peut-être que je peux mettre un peu de Michel Sardou, de temps en
temps. Ce style-là,
il y a du
trop.
Céline Dion, des fois.
Ouais, des fois, ah, c'est oui. Céline Dion. Pour les trentenaires, là, elles aiment bien, des fois.
Pour les trentenaires, ok.
Elle dit ça comme si c'était des vieux.
Non, mais on a pris. C'est bon, on a pris. Ouais. Non, mais c'est vrai, après, ça joue beaucoup aussi, cette ambiance-là. On le voit, on le ressent, tu l'as dit, j'ai pu assister à des matchs, j'ai vu aussi les U19, et c'était les mêmes états d'esprit aussi, on les salue notamment Romain et Caroline. Il y a quelque chose en fait qui s'est créé dans ces équipes-là, on le voit, la joie de vivre que vous avez en groupe, Et ça, gardez-le le plus longtemps possible parce que c'est ce qui forge aussi dans des moments difficiles. Hein. J'ai un peu les derniers résultats. Je pense au match à Lens, je crois. Hein, vous avez fait 0-0 là-bas.
Un partout.
Et il y a des moments où forcément ça marche pas non plus tout le temps, toute la saison. Et c'est là où finalement il faut avoir des ressources aussi. Et puis en côté, moi j'ai l'impression au match où j'étais venu vous voir, je sais plus contre qui c'était, mais j'ai l'impression que vous êtes aussi sûr de votre force collective.
Bah ouais, c'est le groupe c'est vraiment notre force. Il y a pas une qui va essayer de tirer son épingle, c'est vraiment un groupe en entier, des remplaçants jusqu'aux blessés qui peuvent pas jouer, qui viennent nous encourager derrière la main courante. Aussi les filles qui redescendent en R1 le week-end parce qu'il y en a. C'est tout un groupe en fait, vraiment, c'est un groupe au complet. C'est rare, hein, je pense, d'avoir un groupe aussi sain et aussi soudé dans le foot. C'est rare et nous, on a de la chance de l'avoir.
Ça fait plaisir en fait aussi de découvrir là-dessus.
Ah, mais
Strasbourg, t'as adopté ça, la ville te plaît maintenant finalement après quelques,
ah ouais,
après super, quelques temps quoi.
La ville est super jolie et tout. Il y a aussi le marché de Noël que j'ai vraiment bien aimé, je connaissais pas. Mais ouais, Strasbourg, c'est... On m'avait dit au début, ouais, tu vas voir, c'est un club familial. Et dès que je suis arrivée, ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un club familial pour le coup, on m'a pas menti.
Faut pas sous-estimer le rôle essentiel de François Keller aussi, hein, qu'on salue, parce qu'il a beaucoup œuvré pour que vous êtes aussi, vous soyez là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important. Les prochaines échéances, qu'est-ce qui vous attend maintenant? Comme tu l'as dit, il reste un gros tiers de championnat à jouer. Championnat qui va être haletant, hein, on l'a dit un petit peu avant, on revient sur le classement. Hein, vous avez 34 points et Nantes juste derrière 32 points. Marseille a 4 longueurs derrière Nantes aujourd'hui. C'est pas encore gagné non plus, même si voilà, la tendance est plutôt bonne, mais il y a encore des gros matchs. Est-ce qu'il y a notamment des confrontations directes contre ces équipes encore qui vous attendent d'ici la fin de saison?
Les deux, on rencontrera encore les deux à domicile.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Ouais, c'est.
Je pense qu'on peut même lancer bien un petit appel à tous les supporters parce que je pense que ce jour-là, ces deux jours-là, il faudra être.
Avec plaisir.
Il faudra être là-bas. Hein.
Ouais, on va leur mettre la pression non plus là.
Avec plaisir. Ouais, non, mais ça.
Non, mais c'est bon, voilà, on préfère être là où on est plutôt que d'avoir 10 points de retard. Donc on y est. Je pense que les filles ont mérité de l'être, mais c'est, voilà, c'est pas parce qu'on a bien fait jusqu'à maintenant que ça va durer jusqu'au bout. Donc malheureusement, on n'a pas ce luxe d'être 3-4 tons au-dessus de toutes les autres équipes et qu'on n'a pas le choix de continuer parce que sinon ça passera pas, quoi.
Mm-hmm.
Donc il reste encore 2 mois où il faut baisser la tête et puis continuer pour terminer dans les deux premières places, quoi.
On s'est toujours posé la question, alors c'est peut-être pas le moment et on va pas porter, mais c'est vrai que voilà, le développement, un jour la D1, je suis pas sûr que vous puissiez recevoir aujourd'hui Nicolas Müller aussi. Ça, c'est pratiquement l'étape dans la structuration.
Ouais,
encore un joueur.
Je suis pas inquiet parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a eu des étapes, le club a été là pour répondre présent, en fait.
Tout à fait. Ouais.
Donc je suis pas, voilà, peu importe où on jouera, je sais que le club répondra présent. Et si on monte en D1, et encore une fois, en plus avec les nouveaux investisseurs, on sait qu'on sera capable de répondre présent.
Mm-hmm.
Donc en fait, je suis pas inquiet. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer. On n'y est pas de toute façon. Mais le cas échéant, je suis vraiment pas inquiet.
C'est marrant, on ressent à peu près le même discours qu'il tenait en tant que joueur. Il est très calme, très posé, serein. On a du mal à l'imaginer s'énerver. ça arrive de temps en temps ou pas?
Fais gaffe, il écoute pas.
C'est rare, Vincent. C'est vrai qu'il est toujours calme.
La
Après, il n'y a pas forcément besoin de s'énerver. Il nous dit,
c'est ça.
Non, mais quand on fait des choses qui sont moins bien, il nous dit les choses. Et voilà, sans forcément s'énerver, il nous dit les choses, il est assez clair avec nous. Voilà, des fois, il mâche pas ses mots, mais sans vraiment s'énerver. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'énerver avec le groupe qu'on a non plus.
Il est d'accord, je crois.
Ouais. Oui, non, mais moi, de toute façon, j'ai un tempérament assez calme. Après, sur le terrain, je suis un peu plus nerveux, ou autour, je suis un peu plus nerveux. Je l'étais également en tant que joueur. Hein. Mm. On disait que j'étais
calme. Quelques tacles.
En fait, non, mais je suis très calme à côté. Et puis quand je suis dedans, moi, je râlais après l'arbitre tout le temps. Je communiquais beaucoup avec mes partenaires. Je leur hurlais dessus.
Ouais, t'étais pas un Verratti non plus.
Non, mais je donnais beaucoup de consignes sur le terrain aussi. Donc en fait, on crie, on est toujours en train de crier. On est branché sur pile électrique. Donc voilà, sur le terrain, c'est vrai que c'est un petit peu différent. En dehors, Mais bon,
voilà, la passion, la passion du foot, en fait.
Ouais. C'est le même stress au bord du terrain et sur le terrain.
Non, c'est pas pareil. On peut pas vraiment, on peut pas évacuer le stress quand on est au bord du terrain. Sur le terrain, on peut, hein, s'il faut à un moment courir, ça nous enlève ce stress un petit peu. Au bord, non, bah, non, c'est à elle de courir pour moi.
De toute façon, on va faire du foot golf bientôt là-dessus. Chloé, Vincent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison, voilà, et comme dit, on invite tous les supporters, voilà, si vous cherchez le calendrier de l'équipe féminine du Racing, bien sûr, vous le trouvez sur toutes les plateformes, et on vous invite à aller les voir, parce que ça joue vraiment, il y a des beaux matchs, et maintenant, en plus, il y a un vrai bel enjeu jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vraiment sur cette fin de saison là-dessus?
De continuer sur notre lancée, j'espère conserver notre première place jusqu'à la fin. Et voilà, hein, continuer à gagner les matchs. Continuer à gagner les matchs. C'est prendre 3 points tous les week-ends, ça serait bien.
T'as un message à passer à tes coéquipières?
Les filles, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Voilà, il faut continuer à croire en nous, à croire en ce qu'on fait. Il faut continuer à avoir la bienveillance qu'on a les unes envers les autres dans le groupe jusqu'à la fin. Pas se désolidariser et voilà, continuer à tout donner chaque week-end, même s'il faut mourir sur le terrain, et ben on le fera, voilà, se donner les unes pour les autres, continuer dans ce sens-là.
Vincent, le coach, c'est rassurant d'avoir des joueuses
Leur dirais aussi de profiter, parce que des saisons comme ça, il n'y en a pas 10. Hein.
Ouais.
Donc voilà, moi en tant que joueur, j'ai connu beaucoup le maintien avec Sochaux. Quand je suis venu au Racing, j'ai connu la montée avec la Ligue 2, mais il n'y en a pas 10 000 des saisons comme ça.
Ouais.
Donc en fait,
savourer aussi ce moment.
Elle est géniale cette saison, donc à nous de faire en sorte qu'elle se termine bien, mais il faut le savourer aussi. Quoi.
Merci en tout cas, on vous souhaite plein de belles choses encore jusqu'à la fin, on viendra bien sûr vous voir encore et n'hésitez pas à les rejoindre aussi bien sûr, hein. Tous les week-ends on partagera les informations et voilà, on va les suivre de près, plein de bonnes choses, on croise les doigts et puis voilà, que les Piglogues vous emmènent très très loin en tout cas, le plus loin possible. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci et puis comme on dit chez nous, le Pigle habituel, on vous souhaite une très bonne soirée, rendez-vous la semaine prochaine et comme on dit chez nous, allez Racing, ciao, bonne soirée, merci.